BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 10h passé de 2 minutes, vous êtes toujours en direct sur l'antenne de BFM Business. C'est les experts pour encore une demi-heure de débat et de controverses sur la souveraineté avec Isabelle Bordry, fondatrice de Returncy, André Leusekroeg-Pietri, président de JEDI, l'agence européenne pour l'innovation disruptive, et Thomas Grébin, responsable du programme macroéconomie et finances internationales au CEPI. On a beaucoup parlé d'Anthropique et de la claque infligée à l'Europe ce week-end avec l'interdiction de Fable 5 et Mythos 5. Dario Amodei, le patron d'Anthropique, arrive en France, tout comme Sam Altman, le patron d'OpenAI. Tous les géants de la tech et de l'IA seront en fait à Evian aujourd'hui pour l'ouverture du G7 avec en guest Donald Trump. Alors, on l'attendait, on n'était pas sûr hein, jusqu'à encore ces derniers jours que le président américain soit présent à Evian. Il le sera. Il arrive à 17h pour un tête-à-tête avec Emmanuel Macron. Et comme il en a l'accoutumée, en général, avant d'arriver dans ses cénacles internationaux, il commence par mettre une bonne droite à absolument tout le monde. Et là, en l'occurrence, à Emmanuel Macron, par une interview dans le New York Post, que vous pouvez aller consulter. Le président américain menace. Si vous, les Français, ne faites pas sauter la taxe GAFAM, eh bien, ce sera 100% de droits de douane sur le vin et le champagne. Bon, voilà pour l'ambiance. Quels sont les enjeux du G7 à venir, Thomas Grébin ?
Depuis plusieurs mois, la France, elle se battait pour que, à l'agenda du G7, il y a la question des déséquilibres mondiaux, qui était un peu le fauné de la concurrence chinoise.
Oui.
C'est-à-dire, il fallait qu'il y ait une réponse des pays du G7 face à ce rouleau compresseur chinois. Et puis un peu pour des questions diplomatiques, on disait il faudrait que les États-Unis eux aussi réorientent un peu leur modèle de croissance, consomment un peu moins relativement à la production. Donc ça, c'était les efforts qui étaient faits depuis plusieurs mois. Et là, on voit aujourd'hui, c'est le G7, et ce qu'on voit, c'est que un peu cette problématique qui est structurelle et qui est majeure pour les années à venir pour l'économie européenne, elle est un peu passée au second plan.
Ah oui.
Donc vous avez les menaces de Trump, vous avez bon évidemment cet enjeu majeur sur l'IA.
Crédible ou pas les menaces de Trump là ? Parce que c'est un vieux sujet quand même. Hein. Si vous ne supprimez pas votre taxe sur les GAFAM.
En tout cas, il a pointé cette menace à de multiples reprises. Donc là, je ne peux pas juger si elle est crédible. Ouais. En tout cas, peut-être que s'il y a un bon dîner à Versailles, ça pourra le faire changer.
Mais avec du bon vin.
Voilà, avec du bon vin français et peut-être même du champagne.
Ce qu'on voit aussi, c'est que par exemple, la guerre en Ukraine, ça doit occuper demain aussi une partie de l'agenda du G7. Donc en fait, des enjeux qui sont moins économique et de plus en plus de politique ou géopolitique.
Mais oui, c'est le risque un peu hein, de voir tous les sujets économiques être balayés. Alors évidemment, là, le président, il arrive en majesté avec cet accord trouvé cette nuit entre l'Iran et les États-Unis sur un cessez-le-feu. Qu'est-ce que ça change, ça, économiquement ? On a vu, bon, évidemment, le pétrole qui commence à baisser, Isabelle Bordry.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que le premier G7 a été organisé par Valéry Giscard d'Estaing et le chancelier Schmitt en 75-76. Et on était en pleine guerre du pétrole, c'était la première crise réelle. Donc c'était à l'initiative des Européens qui s'apercevaient qu'ils étaient pris en étau avec les problématiques d'un côté financière, le dollar s'était désindexé de l'or, et du pétrole qui tout d'un coup explosait et créait une espèce de tsunami sur les marchés européens. Aujourd'hui, effectivement, le sujet, c'est l'IA, c'est la géopolitique, et c'est toujours un peu le pétrole. Et aujourd'hui, quand on voit effectivement les prises de position de Trump, c'est le détroit d'Hormuz.
Oui.
Alors, il en est à sa 39e promesse du fait que ça s'arrête.
Mais là, c'est la bonne. La 40e est la bonne.
D'être
a
un peu plus sérieux, parce que les Iraniens ne l'ont pas démenti, que les Pakistanais ont dit. Mais on en est à un mémorandum d'accord. On est encore assez loin d'un accord, semble-t-il. Ça doit être signé vendredi. On verra. Après, sur le fait que les Canadiens, les Italiens, les Allemands, les Français, les États-Unis se parlent, je pense que c'est absolument essentiel.
Oui.
Absolument essentiel. Et le fait que mercredi, il y ait en plus des politiques, les grands patrons de la tech est un élément aussi absolument déterminant. Il faut se parler pour arriver à un moment donné à un consensus. Et on le fera plus et mieux entre pays occidentaux, je pense, qu'avec les pays asiatiques.
Ouais, en même temps, G7 sans la Chine, André Lezekrug-Pietri, ça a du sens ?
De moins en moins, et de moins en moins dans le sens où en plus la plupart des pays entre eux ne sont pas d'accord sur la stratégie à appliquer vis-à-vis de la Chine. On peut encore le voir entre la France et l'Allemagne, même si l'Allemagne se modifie un petit peu. Et deuxième chose, on sent de plus en plus une déconnexion entre le tempo du monde et le tempo des politiques. Je m'explique. Apparemment, l'Union européenne et au niveau de la Commission est en train de basculer plutôt sur un mode de confrontation, voire de guerre commerciale avec Chine, qui il y a encore 6 mois était un tabou absolu dans cet antre du
avec encore des batailles homériques entre la DG concurrence et la DG trade qui reste sur un logiciel très libre-échange.
Donc le vrai sujet, c'est est-ce que le G7 est effectivement peut-être l'endroit où on peut en fait travailler les problèmes en temps réel. Donc voilà, on est lundi, le protocole d'accord date apparemment d'hier, oui, sur Hormuz, la décision d'Anthropique date de vendredi, on va en parler mercredi. Ça, c'est
on
très
est en
intéressant.
Temps réel, hein.
C'est en fait le vrai sujet aujourd'hui, je crois, et notamment dans les démocraties, c'est comment est-ce qu'on relie le temps de la décision politique et le temps surtout stratégique et le temps du monde. Parce que c'est très bien d'avancer plus vite qu'avant, mais ce qui compte aujourd'hui, pour rester crédible et avoir une voix qui continue à porter, c'est que est-ce que nos décisions sont adaptées à la rapidité, à l'accélération du monde. Et ça, probablement, le G7 est un des rares endroits où ça se passe encore.
Ouais, vous y croyez encore, ça, Thomas Grémin ?
Je pense que là, il y a trop de sujets où il y a des divisions entre l'Ukraine, qui est un enjeu stratégique majeur pour l'Europe, l'IA, la Chine, et puis toutes les conséquences macroéconomiques, c'est-à-dire qu'on est en plein guerre, enfin crise énergétique. Donc Donald Trump a annoncé hier soir que le détroit d'Hormuz serait libéré
et que le pétrole va couler à flot, ouais, a-t-il dit sur son réseau social Truth Social.
Mais on peut faire plusieurs bémols. D'une part, bon ben ça c'est pas la première fois qu'il annonce un accord. Donc là, oui, les Iraniens sont aussi a priori d'accord. Donc on est plutôt sur la
a priori.
Bonne voie.
Mais attendons de voir vendredi si effectivement tout le monde se met d'accord à Genève pour signer.
Mais on repart sur une période de transition de 60 jours. Oui. Donc on verra bien ce qui se passe au bout de ces 60 jours et pendant ces 60 jours. Et puis, même s'il y a ce protocole d'accord et qui est appliqué, le détroit d'Hormuz, il ne va pas se libérer et on ne va pas revenir à la normale en quelques mois.
Beaucoup d'économistes parient sur un effondrement du pétrole, peut-être sous les $60 une fois que le détroit sera rouvert. Vous êtes plus prudent que ça, Thomas Grémin?
Moi, je pense qu'il faut être prudent parce que ça va mettre plusieurs mois. Déjà, le détroit, il a été en partie miné, donc on ne sait pas combien de temps il faudra pour vraiment revenir à la normale. Il y a près de 400 navires qui sont bloqués, donc ça risque de poser des problèmes logistiques d'embouteillage. Donc ça aussi, ça va prendre du temps pour revenir à la normale. Il y a une partie des infrastructures pétrolières qui ont été fortement endommagées. Et puis, il y a une forte incertitude. Donc, si vous avez un tanker, les coûts de l'assurance sont encore très élevés. C'est pas demain que vous allez normalement, oui, revenir dans le détroit. Il faut voir que, par exemple, l'année dernière, il y a eu un accord sur la mer Rouge. Près d'un an après cet accord, le trafic sur la mer Rouge, on est à moins de 50% du trafic, oui, qui existait au préalable. Donc en fait, ce qu'on peut penser, c'est que le retour à la normale va mettre beaucoup de temps, et en tout cas, même les tensions sur le marché du pétrole risquent de durer au moins jusqu'en 2027.
Oui. Ça veut dire qu'on va pas avoir de baisse à la pompe d'ici demain, quoi, hein, si je résume. André?
Alors, il pourrait y avoir une baisse sur les prix spot, mais ce qui est fou, c'est on revient sur l'histoire du G7, c'est qu'en fait, les acteurs du G7 plus la Chine en fait vont avoir des impacts complètement différents. Aujourd'hui, le problème pour Trump, c'est que comme c'est un prix mondial, le pétrole, oui, les prix à la pompe pour le consommateur américain sont indexés sur le prix mondial. Et mais oui, dès qu'effectivement il y aura probablement une baisse, elle s'est déjà produite depuis hier soir.
Oui, on est sur les $84 ce matin pour le Brent.
Dès qu'il y a une baisse, en fait, ça va directement avoir un impact. Par contre, les États-Unis n'auront pas de problème d'approvisionnement. La Chine, depuis longtemps, s'est préparée avec sa fameuse double circularité, oui, à ces disruptions.
Alors, en français, c'est
bloque.
Et accélère massivement sur les énergies renouvelables. Par contre, l'Europe va se retrouver à partir de maintenant, en fait, avec tout ce qui a commencé à gripper dans le système, les approvisionnements en matières premières, tout ce qui est dérivé des produits du pétrole, qui, en fait, a mis du temps à se prolonger dans les chaînes de valeur. En fait, je pense à nouveau l'Europe, par son impréparation.
Le pire est à venir, ce que vous nous dites.
Pas le pire est à venir, mais sur les chaînes de valeur industrielles, les vraies ruptures vont commencer à arriver maintenant.
Vous êtes d'accord avec ça, Isabelle ?
Après, le vrai sujet, c'est que cet accord de paix, les mots-là sont toujours là. C'est-à-dire que l'objectif initial de Trump...
Une guerre pour rien, hein. Je crois qu'on peut résumer comme ça.
L'objectif initial de Trump, c'était effectivement de renverser les mollahs et que le peuple iranien aille dans la rue pour faire la révolution. Ce n'est pas arrivé. Et s'agissant de l'uranium et de l'enrichissement uranium, on n'a pas non plus d'informations extrêmement positives.
Non.
Donc en fait, la réalité, c'est que le marché va un peu se réorganiser, tant bien que mal, comme il l'était il y a quelques mois, en ayant perdu du temps. Alors après, effectivement, les gagnants, à terme ou à moyen terme, seront ceux qui ont travaillé sur des alternatives. Donc, je pense que ça, c'est aussi un point. La Chine s'est organisée, l'Europe peut-être un peu moins. Les Américains ont finalement, avec le gaz de schiste, mais depuis longtemps, ouvert les vannes et libéré en fait l'énergie chez eux pour leur industrie. Et par contre, je pense les grands perdants de toute cette séquence, c'est les Émirats arabes et c'est l'OPEP. Parce qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement divisés. Certains sont sortis de l'OPEP, donc il n'y a plus de coordination. Il y a les pro-américains, ceux qui le sont moins. Et donc, en fait, tout ce marché doit se réorganiser et politiquement, ça va être extrêmement compliqué.
Thomas Gabin.
Ce qu'on a vu quand même ces derniers mois, c'est que l'économie mondiale a été relativement résiliente. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
Absolument.
Parce que les grandes entreprises ont su se réorganiser grâce, entre guillemets, aux nombreux chocs qu'elles ont vécu depuis la crise Covid. Puis la crise...
permacrise les a renforcées. C'est ce qu'on dit souvent sur ce plateau, hein, c'est qu'elles deviennent incroyablement agiles et résilientes.
Après, quand on regarde les chiffres de croissance, quand on prend la croissance américaine ou la croissance de pays asiatiques, elle est en partie, enfin très fortement nourrie par ce boom sur l'IA.
Oui.
C'est évidemment le cas aux États-Unis, c'est le cas en Corée du Sud et dans une moindre mesure en Chine. Et là, à nouveau, l'Europe va se retrouver avec une économie qui est fragilisée, un peu plus d'inflation, et l'Europe ne bénéficie pas de ce boom de l'IA. Donc cet accord hier soir, c'est évidemment une bonne nouvelle, parce qu'il vaut mieux que la situation se stabilise, mais l'Europe n'est pas sortie de son marasme économique.
Bon. Oui, et je rappelle quand même, il y a un grand perdant, hein, c'est la globalisation, puisque on avait depuis presque 100 ans aujourd'hui le fait que tous les détroits était protégé, qu'il y avait toujours un droit de navigation
avec une libre circulation, oui.
Que les États riverains n'avaient pas le droit, sauf en cas de conflit direct, le droit de fermer le trafic, sauf aux navires de guerre. Tout ça a volé en éclats. Et aujourd'hui, le fait que les États-Unis et l'Iran envisagent une sorte de péage, c'est une extrêmement mauvaise nouvelle, parce que pourquoi Singapour et la Malaisie ne feraient pas la même chose?
Ça serait un précédent, oui, absolument.
Etc, etc.
Bah peut-être l'étroit de la Manche au Havre, hein. On pourrait peut-être s'y mettre aussi, ça ferait des recettes pour redresser les comptes publics. Je rappelle ce matin que le ministre de la Défense israélienne a dit qu'il ne retirerait pas ses troupes du Liban, de la Syrie et de Gaza. Donc pour la signature de l'accord aussi, reste à voir comment va réagir Israël. Tout ça reste très évidemment très fragile. Et pour terminer avec la guerre, on a quand même aujourd'hui le salon Eurosatory qui s'ouvre à Villepinte, le plus grand salon au monde pour la défense terrestre. Et cette année 2026 marque un véritable tournant dans l'approche de la guerre. Jamais il n'y avait eu autant d'exposants à Villepinte. 2600 exposants cette année, c'est 30% de plus qu'en 2024. Tous les politiques, ça aussi c'est un signe, peut-être qu'on entre en campagne aussi, vont y défiler. Beaucoup de financiers aussi, c'est le signe qu'on entre dans un nouveau monde, ça, Isabelle Bandry.
Oui, absolument. Donc on a eu les biotech, les fintech, les adtech, et maintenant on a les défense tech.
Oui.
Ce qui montre qu'effectivement, créer un écosystème, même si ça ne se décrète pas, ça peut quand même effectivement se créer avec une force importante. Je rappelle qu'il y a quelques mois, et même quelques mois, les grandes entreprises n'avaient pas le droit ou ne pouvaient pas investir dans les sociétés de défense et dans l'armée, parce que c'était pas bon pour leur politique RSE et donc RSE, leur note extra financière.
La première fois, donc, les banquiers seront présents au rendez stand, hein,
voilà.
En gros, ça tourne.
Donc là, tout d'un coup, il y a une manne financière qui effectivement arrive. Alors, est-ce que c'est effectivement bon signe pour la paix et l'avenir? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, l'Europe aujourd'hui prend les choses en main. Et on parlait tout à l'heure de son indépendance vis-à-vis de l'IA. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens sont en pointe. Et on ne peut pas dire que l'Europe n'est pas en pointe. L'Ukraine a révolutionné l'art de la guerre depuis maintenant 4 ans, et notamment en utilisant des capacités de calcul. Alors, ils utilisent la donnée, ils utilisent des drones qu'ils ont réussi de manière extrêmement
à produire.
Et des drones low cost qu'ils ont eux-mêmes produits. Alors maintenant, qu'ils coproduisent avec des Allemands, parce qu'ils les produisent maintenant en dehors du territoire ukrainien. Alors effectivement, ils sont dépendants encore de Starlink. C'est une vraie dépendance.
Le système de communication d'Elon Musk, basse orbite.
Mais aujourd'hui, ils arrivent à non seulement rentrer sur le territoire russe à 2000
km, très profondément,
donc extrêmement profondément, et ce, alors même que les GPS se sont totalement brouillés. Donc, ils ont mis au point des systèmes avec la fibre optique qui permet effectivement de faire face au brouillage du GPS. Donc, tout à l'heure, on parlait de notre dépendance à des technologies. Les Ukrainiens ont démontré qu'ils pouvaient aller au-delà en trouvant des solutions. Et puis, alors, ce qui est assez fascinant aujourd'hui, et c'est ce qui a été prouvé là dans les dernières attaques sur le territoire russe, c'est qu'aujourd'hui, des essaims de drones communiquent entre eux sans avoir besoin de pilotes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a été démontré que des essaims de drones qui sont allés très très loin sur les territoires russes n'étaient plus connectés à des pilotes ukrainiens et qu'ils avaient la capacité de s'organiser
parfaitement
entre eux
autonome
pour mener la guerre.
C'est
donc
effrayant.
Oui, nous sommes en retard sur l'IA. Mais on le voit, lorsqu'il y a effectivement urgence, alors dans ces cas-là, c'est un peu terrible, mais il y a effectivement la capacité de pouvoir produire des choses extrêmement pointues.
André, comment on se situe aujourd'hui, nous, dans la tech, dans la war tech, si je puis dire, en Europe ?
Non, le point d'Isabelle est très fort, c'est de dire qu'aujourd'hui, enfin, moi je fais le pari que lorsque la guerre sera terminée, on espère dans de bonne manière, les nouveaux géants de la défense européens sont en train d'être créés en Ukraine. Parce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir des acteurs qui auront compris qu'aujourd'hui c'est pas juste une question de capacité, c'est-à-dire de produit, mais qu'il faut livrer l'usine qui est prêt à délivrer 9 millions de drones cette année. En Ukraine. Deuxième chose, ça va être, ils vont avoir des surcapacités gigantesques, donc devinez où ça va aller. Et troisième chose, ils gagnent aujourd'hui, en tout cas ils résistent à la guerre financière, puisque quand on envoie des rafales et envoyer des missiles à 400, 500, 1 million d'euros détruire des chaïds, alors on en est très content et heureusement qu'on l'a fait pour défendre nos bases et nos partenaires dans le Golfe, mais on perd la guerre financière.
Eh oui.
Donc aujourd'hui, ça, c'est les Ukrainiens ont réussi à faire, en fait, des contre-drones, des essaims, des choses comme ça, qui, en fait, ne permettent de ne pas être en désavantage par rapport aux Russes. Je m'interroge quand même, est-ce que nous, dans les pays en Allemagne, qui aujourd'hui débordent d'argent, ils n'ont pas changé, je parlais de cette adéquation entre les tempos, ils n'ont pas changé, en fait, réellement ce qu'ils achètent, ils continuent à acheter du matériel pour la guerre d'hier. Donc c'est pour ça que quand j'entends des voix en France dire « mon Dieu, on a peur d'une Allemagne qui devient très forte », je dis « rassurez-vous, parce qu'aujourd'hui, la Bundeswehr ne fait pas preuve de sens stratégique extrêmement profond, ils sont beaucoup plus dynamiques, ça c'est sûr. Et nous, en France, il faut qu'on arrête de dire qu'on est en économie de guerre, à part sur quelques produits comme les canons César, où ça reste quand même échantillonnaire, on n'a pas multiplié par deux, par trois. Et à l'arrière, il ne faut pas forcément multiplier par deux, par trois, parce qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui, mais on ne serait pas capable, en cas de choc, de monter notre production x10, x20, x30, comme il faudrait le faire.
Ça fait quand même 4 ans qu'on en parle.
Ça fait 4 ans qu'on en parle.
Cette économie de guerre et on n'y est toujours pas, Thomas Grébin.
Et en plus, il y a un modèle industriel français qui est très spécifique par rapport au reste de l'Europe. Il faut se souvenir que les Français, on est les deuxièmes exportateurs mondiaux d'armement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle d'un point de vue.
Oui, on n'est pas trop mal positionné, a priori, on peut le dire. Mais quand est-ce que c'est l'ancienne guerre ou la nouvelle, comme le dit André
Quand vous regardez maintenant au niveau européen, on n'est que les troisièmes pour les achats intra-européens. C'est-à-dire qu'on est très loin derrière les Américains et on est même derrière les Allemands, les achats intra-européens.
Ah oui.
C'est un chiffre. Quand on regarde les équipements.
On vend mal à nos partenaires européens.
Exactement. Ouais. On a un tiers, pour les équipements militaires européens, il y a un tiers qui est importé et en moyenne, pour les pays européens, il y a plus de 50% qui viennent des États-Unis. Un chiffre qui a augmenté, c'est-à-dire que dans les années 2010, on était autour de 40% qui étaient importés des États-Unis. Là, on est à plus de 50%. Donc, notre dépendance aux États-Unis
a augmenté aussi. Donc, il n'y a pas que la tech, il y a aussi l'armement.
Mais la France, elle, se distingue puisqu'on est beaucoup moins dépendant des importations américaines, autour de 17%. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que quand vous voyez les Polonais, quand vous voyez les pays de l'Est, quand vous voyez les Allemands, ben par exemple, les Polonais m'ont acheté plutôt sud-coréens.
Oui, mais ou ça, c'est l'OTAN, bien sûr.
Que français. Donc là aussi, on a un problème de positionnement de notre appareil militaire, de notre appareil industriel. Et c'est très difficile de répondre à la demande de nos voisins.
Non, mais l'exemple que citait Thomas sur les tanks, je crois K2 coréens que la Pologne a acheté, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs que nos Leclerc ou que les Allemands, c'est juste que les Coréens étaient capables de fournir rapidement. Parce qu'à
donc
nouveau,
c'est la question vraiment de la production, des capacités
aujourd'hui
de production.
La capacité de production. C'est-à-dire qu'on est encore dans de la haute couture, il faut qu'on passe rapidement au modèle Zara. Et je dis Zara, pas pour faire de la publicité pour Zara, parce qu'il y a deux choses. Un, parce que c'est du prêt-à-porter.
C'est de la fast weapon qu'il faut.
Il faut qu'on change cette logique en fait de catalogue, puisqu'il faut produire un batch et ensuite passer directement au suivant, parce que si on a des stocks de modèles, en fait, ils deviennent périmés de plus en plus rapidement.
C'est exactement ce qu'ont montré les Ukrainiens, c'est-à-dire cette agilité et cette capacité de test and learn. En fait, les drones ont été créés par une multitude de petites zones et de laboratoires sur tout le territoire. En 2-3 jours, ils étaient testés sur le front et en fonction des bons résultats, l'État investissait et flécher les financements.
Mais est-ce que ce n'est pas un game changer pour l'industrie européenne, ça? 80 exposants ukrainiens cette année à Eurosatory contre 10 il y a 2 ans seulement.
Ah, mais absolument.
Ça devient la première armée européenne, l'armée ukrainienne.
Les Ukrainiens ont réussi à développer un savoir-faire absolument unique et ont complètement transformé l'art de la guerre. Donc on peut, effectivement, vis-à-vis des États-Unis, on a pas que le vin, on a aussi ce savoir-faire ukrainien, enfin au niveau de l'Europe, pas malheureusement de la France, mais au niveau de l'Europe. Et on a bien vu les Ukrainiens proposant au moment du début du conflit iranien aux Américains de l'aide et aux pays du Moyen-Orient. Donc c'est un vrai savoir-faire aujourd'hui.
Et je vois les discussions aujourd'hui qu'il y a sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Il faut faire très attention parce qu'on voit bien dans la population, que ce soit dans le domaine agricole, que dans le domaine... Il y a plein de gens qui vont dire « mais est-ce que ça va trop vite ?» Et ils auraient raison de le dire. Il faut qu'on présente ça, non pas comme avec la France, l'Allemagne, le couple franco-allemand. Quels sont nos intérêts? Notre intérêt aujourd'hui, stratégique européen, c'est d'avoir l'Ukraine au cœur de la machine industrielle européenne. Le problème, c'est que vous allez avoir beaucoup d'acteurs traditionnels, je rappelle, et c'est pas qu'en France, qui vont être contre ça. Parce que ils sont sur un fromage bien établi, avec des achats bien établis. Je rappelle, il y a 2 mois, le président, le CEO, le PDG de Rheinmetall, qui, de manière un petit peu dénigrée, les producteurs de drones, en disant que c'était des Ukrainiennes dans leur cuisine qui produisaient des drones. Ce qui est en train de se passer, on l'a vu la semaine dernière, c'est qu'ils sont en train de produire des missiles pour la frappe en profondeur. Les fameux flamingos. Alors au début, c'était vraiment du bricolage, ça ressemblait à des V2 allemands d'il y a 80 ans.
Oui.
Mais aujourd'hui, ça devient des missiles qui arrivent à frapper et qui sont à une fraction de nos propres coûts. Donc je pense qu'aujourd'hui, soit on fait du protectionnisme en France en disant « Ouh là là, il faut protéger nos missiles actuels » ou au contraire, c'est une incitation pour
toujours la même tension européenne.
En fait, la grande difficulté en Europe, c'est que depuis 30 ans, le marché s'est consolidé. Il n'y avait plus de demande. Il n'y avait plus aucune demande et plus aucun investissement.
On est sur des marchés plutôt
donc
porteurs aujourd'hui.
On a des oligopoles qui ne sont absolument pas pressés et qui ne sont pas doués d'une agilité. Et effectivement, le fait de pouvoir produire rapidement, aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, il faut que l'on arrive à intégrer sur le marché cette agilité ukrainienne. Quand on voit les investissements qui ont été faits par l'Europe depuis maintenant maintenant une dizaine d'années. On voit par exemple que les Américains ont commencé à vraiment déclencher et investir énormément dans la défense à partir de 2001 avec le choc du 11 septembre. Ils étaient à l'époque à 300 milliards de dollars, nous étions à 150 milliards de dollars l'Europe. Donc nous étions qu'à la moitié. Aujourd'hui, ils sont à 1000 milliards de dollars et nous sommes à peine à 300 milliards de dollars au niveau européen. Oui. Donc l'écart s'est absolument creusé et l'oncle Sam n'est plus un oncle protecteur. Et donc c'est absolument essentiel qu'aujourd'hui le marché se réorganise, y intègre de l'agilité et des financements.
Très rapidement, le mot de la fin, Thomas.
Ouais, c'est que l'Europe ne sait pas planifier, mais par contre elle sait réagir quand il y a une menace vitale. Donc là, c'est malheureusement le cas dans la guerre en Ukraine, où c'est quand même impressionnant qu'un pays comme l'Ukraine, en 4 ans, a réussi à bâtir un tissu industriel qui est au niveau où ils sont capables d'exporter, y compris leurs compétences aux pays du Golfe. On n'aurait jamais pensé ça il y a 4 ans. Mais de nouveau, la mauvaise nouvelle, c'est que s'il faut attendre une guerre d'une telle ampleur pour que l'Europe se réveille, on revient à notre débat sur l'IA du début, mais voilà, c'est dans quelle mesure les Européens prennent conscience de la menace et des enjeux géopolitiques pour demain.
Allez, merci à tous les trois. Ce sera le mot de la fin. Cette émission est disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business.